18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Ça laisse beaucoup d'autres familles dans le silence parce qu'il y a eu d'autres meurtres, d'autres crimes sur lesquels il n'aura pas à s'expliquer. Et donc, il y a un sentiment de colère.
La mort à 79 ans du tueur en série Michel Fourniret, condamné deux fois à la perpétuité pour les meurtres de 8 jeunes femmes et adolescentes.
L'ogre des Ardennes meurt en emportant ses secrets. Les parents d'Estelle Mouzin ne sauront sans doute jamais où il a enterré leur petite fille.
L'enquête après la mort du policier Éric Masson à Avignon. 4 personnes en garde à vue à la veille de l'hommage national qui sera rendu aux fonctionnaires.
Le nombre de malades en réanimation repasse sous la barre des 5000. On n'en a pas encore fini tout de même avec l'épidémie, évidemment, bien sûr, mais tous les indicateurs sont au vert, nous dira Victor Delande.
Au procès de Nordal Le Landais, les experts décrivent un homme incapable de supporter la frustration, menteur, perverse et sans aucune culpabilité.
Et puis, si vous êtes à la recherche de vêtements vraiment uniques, on vous emmènera à la vente aux enchères de créations inédites signées du créateur, le grand Kenzo.
La Bourse de Paris, stable ce soir à 6385 points.
Et puis, la météo, Anissa Dadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Toujours des vigilances demain.
Oui, 5 départements du centre est et du sud-est, toujours placés en vigilance orange, pluie, inondation pour les prochaines heures et la journée de demain. Demain, les pluies seront encore soutenues et orageuses. Les températures baissent encore, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on a donc appris cet après-midi la mort de l'un des plus grands tueurs en série français.
Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes, s'est éteint à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il avait été hospitalisé ce week-end, Guillaume Bier.
Oui, son état de santé s'était encore dégradé au point que le tueur en série avait été une nouvelle fois hospitalisé en urgence dans un état critique, en insuffisance respiratoire. Son pronostic vital était engagé de manière irréversible, nous disait-on à la mi-journée, et à 15h, le décès de Michel Fourniret a été officiellement prononcé. C'est donc sur son lit d'hôpital que l'ogre des Ardennes, 79 ans, a succombé. Lui qui était déjà physiquement diminué depuis des années et qui souffrait aussi d'une maladie dégénérative, lui faisant notamment perdre la mémoire. D'où ses difficultés à répondre aux questions de la juge Kéris ces derniers mois et à faire avancer l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, qu'il a reconnu avoir tué, mais dont le corps n'a toujours pas été retrouvé. Michel Fourniret, l'incarnation de la perversité, le tueur aux formules alambiquées, emporte avec lui nombre de secrets criminels, car des soupçons pesaient toujours sur lui. Des comparaisons ADN sont d'ailleurs en cours pour savoir s'il pouvait être impliqué dans d'autres dossiers non élucidés. Ces réponses, les familles les attendent encore, mais le casier judiciaire de Fourniret ne pourra plus s'alourdir. Il aura donc été condamné deux fois à perpétuité pour 8 meurtres au total.
Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Vous évoquiez, Guillaume, le cas Estelle Mouzin. Vous avez joint l'avocat du père de la petite fille, maître Didier Seban, qui garde un souvenir glaçant du tueur en série qu'il a croisé à plusieurs reprises.
Quand on a croisé Michel Fourniret, on a le sentiment que l'humanité était sortie de son personnage et qu'il n'y avait que l'envie de faire mal. Vous savez, Éric Mouzin disait souvent « Je n'attends rien de Monique Olivier, rien de Michel Fourniret, mais toute la justice ». Je crois que c'est ce sentiment-là, c'est-à-dire il y a le travail à faire, le travail doit se poursuivre, la recherche du corps d'Estelle doit se poursuivre. Et puis, évidemment, ça laisse beaucoup d'autres familles dans le silence parce qu'il y a eu d'autres meurtres, d'autres crimes sur lesquels il n'aura pas à s'expliquer. Et donc, il y a un sentiment de colère et puis cette idée que il faut en tirer des conséquences, il faut que ça change, il faut que la justice française qui fonctionne comme au 19e siècle se dote maintenant de moyens, d'un pôle national sur les crimes non élucidés et d'un pôle national sur les tueurs en série pour qu'on arrête de fonctionner chacun dans son coin et ne résoudre que très peu d'affaires.
Maître Didier Seban, l'avocat du père d'Estelle Mouzin et de plusieurs autres familles de victimes de Michel Fourniret. L'enquête sur la mort d'Éric Masson à Avignon la semaine dernière a donc progressé ces dernières heures avec l'interpellation hier soir de 4 personnes, dont le principal suspect.
Oui, Stéphane Frangy, vous êtes sur place. Le procureur vient de donner une conférence de presse pour évoquer brièvement les derniers éléments et les avancées de cette enquête.
Eh bien, le procureur Philippe Guémas est resté très prudent. Il confirme ce scénario de la tentative de fuite des suspects vers l'Espagne et l'étau qui s'est resserré autour d'eux depuis vendredi. Le procureur qui a surtout dévoilé le profil des 3 personnes interpellées sur ce péage autoroutier de l'Ouest avignonnais hier soir.
Je peux vous préciser que les 2 personnes interpellées et qui étaient recherchées sont toutes les 2 très jeunes, puisqu'elles ne sont âgées que de 19 et 20 ans. et que malgré leur jeune âge, ils ont tous les deux déjà été condamnés plusieurs fois, notamment par le tribunal pour enfants, pour des faits de violence et d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Le cas du conducteur du véhicule semble être quelque peu différent, puisque lui est âgé d'une cinquantaine d'années, et son rôle exact devrait être précisé par l'enquête.
Voilà, pas d'autres déclarations du procureur qui attend le développement des gardes à vue qui peuvent durer 48 heures maximum. Nous sommes en phase d'attente, a-t-il conclu. Nous devons d'abord recouper tout ce qui est dit durant ces auditions.
Stéphane Frangy à Avignon pour Europe 1, où un hommage national aura lieu demain en présence du Premier ministre.
Oui, après cinq jours après la mort d'Éric Masson à Avignon, un tag visant clairement la police a été découvert aujourd'hui à Lyon.
Une inscription qui cible ouvertement la brigade spécialisée de terrain du 8e arrondissement de la ville et qui fait référence effectivement au drame d'Avignon. Dans ce contexte, Jean Castex saura-t-il rassurer les policiers ? Le Premier ministre reçoit leur syndicat ce soir. Il faudra plus que des hommages. La colère est très forte. Jean Castex va notamment devoir évoquer la question de la réponse pénale. Beaucoup de policiers estiment que la justice ne suit pas. Ils réclament des engagements fermes.
Deux semaines après un premier texte controversé, une nouvelle tribune attribuée à des militaires anonymes en activité publiée dans Valeurs Actuelles.
Oui, des militaires qui cette fois comparent le gouvernement et leur hiérarchie au régime de Vichy.
Oui, ça fait beaucoup de bruit, on en parlera avec nos débatteurs dans les grandes voix. La crise sanitaire maintenant est une confirmation, c'est une bonne nouvelle. L'épidémie recule nettement, Victor Delande.
Oui, moins 22% de contamination chaque semaine. On est actuellement à moins de 20 000 cas par jour en moyenne. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100 000 habitants, est de 192. C'est la première fois depuis mi-février que la France redescend sous la barre des 200. Ça veut dire que les mesures qui ont été prises fin mars ont marché. Du côté des hospitalisations, ça chute également. Et le nombre de personnes en réanimation suit aussi cette tendance à la baisse. Moins de 5 000 patients sont actuellement en soins intensifs. C'est près de 700 en une semaine. On est sur la bonne voie donc. Et selon les projections de l'Institut Pasteur, si on continuait sur cette pente, on serait à 10 000 cas par jour le 25 mai et à 5 000 le 15 juin. Un seuil acceptable pour remonter efficacement les chaînes de contamination. Mais, car il y a un mais, cette baisse et ces jolies projections sont conditionnées à une réouverture mesurée et encadrée. En gros, si les Français respectent bien les mesures d'espacement et continuent à appliquer les gestes barrières, ça ira. En revanche, si des centaines de personnes se ruent sur les terrasses sans rien respecter, l'été pourrait être plus compliqué.
Merci Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1. On rappelle que depuis ce matin, la vaccination est possible pour les 50 ans et plus et à partir de mercredi pour tous les majeurs, à condition de réserver la veille et puis uniquement s'il reste des doses. Et puis vous évoquiez effectivement un relâchement éventuel cet été. Et bien en Espagne, au lendemain de la levée de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement appelle à la responsabilité après les scènes de liesse de fêtards sans masque ni distance.
Les sirènes retentissent ce soir à Jérusalem. Des salves de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. Le mur des lamentations a été évacué. La Knesset également. Des avions civils ont aussi été détournés vers des aéroports annexes.
Oui, après un week-end de violence, de nouveaux affrontements aujourd'hui sur l'esplanade des mosquées. Plus de 300 Palestiniens ont été blessés.
Et on rejoindra tout à l'heure la correspondante d'Europe 1 à Jérusalem dans votre journal de 19h.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, dans la suite de votre journal, on évoque maintenant le procès de Nordal Lelandais, accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer. Les experts psychologiques et psychiatriques à la barre aujourd'hui.
Marion Dubreuil, vous avez suivi cette journée d'audience, moment attendu de ce procès. On espérait y voir un peu plus clair sur la personnalité du maître chien de 38 ans.
Oui, pour les experts, Nordal Lelandais est à l'abri de la culpabilité et de la honte. L'un des psychiatres qu'il a rencontré en avril 2018 explique l'avoir vu pleurer plusieurs fois. Mais pour le docteur Blacher, son émotion pour la petite Maëlys ou pour Arthur était feinte. Pas celle pour la mort de son chien Tyrone. Son empathie se limite à sa famille et ses Malinois. Au départ, Nordal Lelandais a bien tenté de passer pour un fou qui entendait des voix. Il a expliqué avoir vu quelque chose de monstrueux dans le regard d'Arthur Noyer, comme une hallucination. Les experts psychiatres n'y ont accordé aucun crédit. Les motivations du meurtre d'Arthur Noyer restent inconnues car l'accusé refuse de s'expliquer. Acte colérique ou sadique, s'interroge l'un des experts sans donner de réponse. Pour lui, l'accusé est à la recherche de sensations fortes pour combler un vide, oublier ses échecs. Si j'avais su qu'en redoublant ma quatrième, il aurait fallu que je consulte un psychiatre, je l'aurais fait, ironise l'accusé. L'accusé est décrit comme menteur, manipulateur. Pour les psychiatres, Nordal Lelandais ne dissimule pas pour tenter de diminuer sa peine, mais c'est un mécanisme de protection. Il risque d'aller trop mal s'il livre trop d'éléments.
Marion Dubreuil qui suit ce procès devant la cour d'assises de Chambéry.
Malgré sa santé fragile, Bernard Tapie a tenu à assister à la reprise de son procès aujourd'hui.
Un procès en appel, c'est l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008. L'homme d'affaires est apparu amaigri sous son masque, mais très attentif, hein, échangeant régulièrement avec ses avocats. Il s'agit du volet pénal de l'affaire. Bernard Tapie est accusé d'escroquerie et de détournement de fonds publics.
Emmanuel Macron a présidé, lui, ce lundi à Paris, une cérémonie pour commémorer l'abolition de l'esclavage.
Une journée qui prend cette année un relief particulier puisque la date coïncide avec les 20 ans de la loi Taubira qui tente à la reconnaissance de la traite de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.
Allez, un peu de légèreté pour finir, on en a besoin. Avec cette grande vente aux enchères, quoique légèreté, ça dépend pour qui, avec cette grande vente aux enchères en ce moment de création ayant appartenu au célèbre couturier Kenzo.
Pas pour le portefeuille, c'est vrai. En tout cas, ça se passe sur le site internet d'Arcurial, Diane Chenouda, et ce sont apparemment des pièces exceptionnelles. Hein.
Ah oui, on a des robes kimono, un long manteau rouge magnifique, des vêtements très japonisants, c'est vraiment l'esprit Kenzo, avec ses couleurs pop, ses imprimés fleuris, des pièces spectaculaires ici exposées. Clara Vivien est spécialiste mode chez Arcurial.
Mais oui, il y a des kimonos, effectivement des kimonos du soir, qui sont pas juste des kimonos d'intérieur et qui ont été travaillés de façon différente dans des matières qui d'habitude sont utilisées pour des smokings, par exemple du grain de poudre, du satin. Donc vraiment, on est sur des pièces très chics et qui ont été légèrement détournées, mais toujours avec ce savant mélange entre l'Orient et l'Occident qui était très intéressant dans le travail de Kenzo.
Des pièces d'autant plus fascinantes qu'elles n'avaient jamais été commercialisées.
Ce qui est très intéressant dans cette vente, c'est que c'est une collection qui n'a jamais été présentée au public, puisque c'est un projet de marque qu'il avait développé entre 2005 et 2008, qui avait été laissé en stand-by pour le moment et qu'on a retrouvé et découvert dans son appartement. Et pour nous, c'était une surprise incroyable de trouver ces pièces que nous n'avions jamais vues.
Une vente qui attire beaucoup de monde, comme cet habitué fan de mode.
Je suis venue parce que Kenzo, c'est quand même un nom dans la mode qui restera toujours. C'est formidable de pouvoir acquérir une pièce, une belle pièce. En plus, ici, il s'agit de prototypes, donc ils n'ont pas été mis en fabrication dans des boutiques ou autres. Voilà. Voilà pourquoi je suis venue.
150 créations en tout, qui sont donc en vente en ligne jusqu'à mercredi après-midi.
Merci beaucoup Diane Chenouda. Demain démarre également la vente de 600 objets d'art et de mobilier qui ont appartenu à Kenzo et aussi des peintures, parce que figurez-vous qu'il peignait Kenzo.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres. La météo, Anissa, 5 départements en vigilance orange demain, attention.
Oui, il s'agit de l'Ain, l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône. Ces 5 départements sont déjà placés en vigilance orange depuis aujourd'hui. Il pleut fort, on attend 4 à 6 semaines de pluie en tout sur ces départements. Donc bien sûr, les risques d'inondation sont importants, avec dès demain matin un temps toujours pluvieux. Hein, de l'Alsace à la Côte d'Azur sur toute la façade est, nous aurons des pluies soutenues sur le Lyonnais et la Corse. Des pluies accompagnées de coups de tonnerre. Sur les Alpes, la neige est de retour à partir de 2000 mètres d'altitude. Et puis partout ailleurs, on a un ciel qui alterne entre averses et éclaircies. Alors de la Bretagne jusqu'à la région parisienne en passant par la Normandie, là le temps est sec. Voilà, il ne va pas pleuvoir sur ces régions demain matin, mais dans l'après-midi, les averses vont se généraliser et elles vont concerner toutes les régions. À l'est, en Alsace et dans les Alpes, le temps reste très pluvieux. Dans les Ardennes, la Bretagne, la Gironde, la Provence et le Nivernais, les orages éclatent, ils seront localement forts. Et puis côté température, ça baisse encore demain, puisque demain c'est le début des Saintes-Glaces. Avec 6 à 10 degrés en général demain matin, nous aurons 6 à Caen, 8 à Rennes, 11 à Paris, 12 à Strasbourg et jusqu'à 15 degrés à Nice. Au meilleur de la journée, comptez 11 degrés pour Aurillac, 13 au Puy-en-Velay, 16 à Bordeaux et Dunkerque, 17 à Lyon, 18 à Paris et 20, la maximale, seulement 20 pour Marseille.
Oui, ça baisse, ça baisse.
Ouais, bien.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30.
À tout à l'heure.
Europe 1, écoutez le monde changer.